Nzamba.
Nzambira Samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes jeudi 30 décembre 2021. Vous suivez bien la radio Nzamba à Tekakawe. Et c'est le moment du journal. Tout d'abord les titres. Certains propos d'Evariste Ndayishimiye pendant la conférence publique qu'il a animée hier prennent la part belle dans cette édition, à commencer par la confirmation de l'attitude de la CVR de qualifier les crimes commis au Burundi, dont les massacres de 1972, reconnus par la Commission comme un génocide contre les Hutus. Les experts du droit n'ont de cesse de fustiger cette qualité de qualification des crimes que s'arroge le gouvernement. Maître Emmanuel Nguyen-Gouloute vient enfoncer le clou pour indiquer que la CVR n'agit que pour les intérêts sectaires et égoïstes du seul CNDD-FDD. La position d'Evariste Ndayishimiye est également qualifiée d'imposture par l'opposition, pour qui Evariste Ndayishimiye ne vise qu'à chercher à annihiler l'accord d'Arusha. Vous l'entendrez de la bouche de Frédéric Bangvouguinou-Villa, un des acteurs clés de la transition issue justement de cet accord. Les professionnels des médias ne sont pas en reste. L'Union burundaise des journalistes estime extrêmement dangereuse pour le métier de journalisme les menaces non voilées d'Evariste Ndayishimiye à l'endroit du journaliste qui a posé la question sur l'inhumation des détenus victimes du récent incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
C'est le Burundi lui-même qui doit qualifier et traiter le crime de génocide commis au Burundi et non la communauté internationale. C'est le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, qui l'a dit ce mercredi lors d'une conférence publique qu'il a animée en mairie de Bujumbura. Il répondait ainsi à la question de savoir si la CVR est habilitée ou non à qualifier les massacres de 1972 de crimes de génocide. Écoutez-le.
Je ne connais pas ce article qui dit que c'est l'ONU qui doit qualifier cela. Vous êtes là, vous faites vos politiques et vous affirmez dire n'importe quoi. Le code pénal burundais prévoit des sanctions contre le crime de génocide. Il faut que vous compreniez que la communauté internationale n'est pas un tribunal du Burundi. Les gens se trompent beaucoup. L'ONU, ce n'est pas le gouvernement du Burundi. C'est le gouvernement du Burundi qui sanctionne les crimes commis sur son territoire. Prenez l'exemple de quelqu'un qui commet un crime de torture. Est-ce que c'est l'ONU qui viendra dire qu'il y a eu torture? Détrompez-vous. Le Burundi est un pays indépendant qui a ses lois. Celui qui les viole doit être puni selon les procédures du Burundi. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Comme vous le savez, autrefois, le crime de génocide n'était pas reconnu et réprimé par le code pénal du Burundi. Mais aujourd'hui, ce crime, le code pénal le réprime. Donc, c'est le Burundi qui saura comment traiter le dossier et non l'ONU.
Eh bien, le président a tout faux, car seuls des organes internationaux ont la prérogative de qualifier les crimes de droit international commis au Burundi avant 2003. C'est ce que spécifie le juriste Emmanuel Nguyen-Gouloute, l'ancien sénateur, qui intervient après que le président Evariste Ndayishimiye ait indiqué que le Burundi est compétent pour qualifier les crimes commis au Burundi. Cet avocat indique que la CVR a travaillé pour les intérêts exclusifs et sectaires du parti au pouvoir en qualifiant les crimes de 1972-1973 de génocide contre les Hutus.
Les crimes de génocide, de guerre et les crimes contre l'humanité ont été intégrés dans l'ordre juridique burundais par la loi numéro 1/004 du 8 mai 2003 portant répression de ces crimes. En vertu des principes constitutionnels de l'égalité des délits et des peines, telles que prévues par l'article 39 de la Constitution, et de la non-rétroactivité de la loi pénale, telle que prévue par l'article 41 de la même Constitution, il s'entend très bien que la qualification et la poursuite ne peuvent concerner que les crimes qui ont été commis après le 8 mai 2003, en vertu donc des principes pré-rappelés. Mais comment en droit international ces crimes sont prévus et réprimés? La loi de 2003 s'y référait afin de trouver la voie de donner la justice aux victimes des violations les plus graves des droits de l'homme commises avant 2003. Dans son article 33, en effet, Cette loi dispose ce qui suit. L'enquête et la qualification des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis le 1er juillet 1962 jusqu'à la promulgation de la présente loi seront confiées à la commission d'enquête judiciaire internationale, tandis que la phase de jugement des responsables de ces crimes serait assurée par un tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables. Alors, c'est cette voie de justice qui a été aussi empruntée par l'accord d'Arusha, qui en plus de ces deux mécanismes, l'enquête judiciaire internationale et le tribunal pénal international, ajoute un autre, à savoir le mécanisme de vérité, qui est l'actuel sévère, mais non compétente pour qualifier les crimes internationaux, comme c'est précisé dans son protocole premier, chapitre premier, article 8. Ce rôle de qualification revenant au mécanisme d'enquête judiciaire. Signalons également que la loi qui porte la sévère lui dénie tout pouvoir judiciaire.
Les propos du président de la République s'inscrivent dans une logique de mettre fin à l'accord d'Arusha. C'est par ces mots que Frédéric Banvoguinou-Villa, vice-président de la République de la Transition, issu justement de cet accord, fustige la position d'Evariste Ndayishimiye qui fait fi des Nations Unies dans la qualification des crimes. Selon Frédéric Banvoguinou-Villa, Arusha avait apporté des solutions à tous ces problèmes. Écoutez-le.
C'est une logique pour lui qui relève justement de cette politique de mettre fin à l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha est très clair par rapport à la question de l'identification et la qualification des crimes commis au Burundi depuis l'indépendance jusqu'en 2000. Et la CVR avait la mission juste de détecter la vérité et puis passer à la réconciliation du peuple burundais. Ça, c'était la mission de la CVR. Mais quant à l'identification et la qualification des crimes, il était proposé une commission d'enquête internationale qui devait nous aider justement à identifier les crimes et les qualifier. Voilà ce qui est écrit. Évidemment, et lorsque le CNDD-FDD a négocié avec les Nations Unies sur l'avenir justement de la CVR, de cette commission internationale d'enquête et judiciaire.
Selon Frédéric Banvoguinou-Villa, si la CVR dévie de son objectif, le parti CNDD-FDD sera alors jugé parti. On l'écoute encore une fois.
Et la question qui s'est posée, c'est que les deux se sont entendus sur la création d'un tribunal spécial, lequel tribunal devait avoir à sa tête un procureur qui devait être indépendant. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu pratiquement la pomme de discorde. Parce que le gouvernement du Burundi voulait un procureur qui ne devrait pas être indépendant, qui devrait dépendre d'eux-mêmes, du gouvernement du Burundi. Et les Nations Unies ont dit non, que ça n'allait pas être possible. Et c'est dans l'entretemps, justement, les Nations Unies, fatiguées, ils ont jeté l'éponge. Et c'est ainsi que le gouvernement du Burundi a mis sur pied une CVR à son image. Et ça veut dire une CVR qui a ses propres missions, qui a son propre mandat et puis dont la mission va s'étendre du début de la colonisation jusqu'à nos jours. Ça veut dire que c'est un temps illimité. Donc vous comprenez que aujourd'hui la question qui se pose, c'est le CNDD-FDD au pouvoir a été aussi impliqué dans des crimes commis au Burundi. Maintenant, et qui est-ce qui pourrait juger les crimes commis, qualifier les crimes commis par le CNDD-FDD lui-même? Personne. Et je crois que c'est dans ce sens-là que le CNDD-FDD tient à ce que ça soit à lui qui identifie et qui qualifie, qui fait tout justement pour qu'il y soit juge et parti.
Inzamba.
Suite de cette édition, l'attitude du président de la République fait reculer le métier de journalisme. L'Union burundaise des journalistes déplore ainsi la réaction d'Evariste Ndayishimiye sur une question d'un journaliste à propos de l'inhumation des détenus victimes du récent incendie qui a ravagé la prison centrale de Mimba. Le président de la République n'avait en effet pas trouvé mieux que de lui répondre sur un ton menaçant. Les détails avec Jean-Marie Ndabashinze.
Dans cette conférence publique, le président de la République s'en est pris au journaliste qui lui a posé une question embarrassante en rapport avec l'incendie qui a emporté des vies humaines à la prison centrale de Gitega le 7 décembre dernier. Avec mépris, le président Ndayishimiye a répondu à ce journaliste qu'il est en train de propager des rumeurs.
Tu aurais pu se rendre à l'intérieur pour poser la question au gouverneur afin de savoir si réellement ces personnes ont été enterrées ou pas. Arguant que tu n'étais pas au courant, mais tu n'as pas eu cette force. Tu as attendu pour venir ici au stade pour faire nous perdre du temps, alors que c'est avec ce temps qu'on aurait pu avancer. Maintenant, tu nous fais reculer. Comme à la cité, il se pourrait que tu ne cesses de dire qu'ils n'ont pas été inhumés. Tu es un journaliste, il se pourrait aussi que tu ne cesses de le dire sur le compte Twitter en propageant des mensonges.
Alexandre Niyungeko, le président de l'Union burundaise des journalistes, déplore ce comportement du président de la République. Il estime que cet agissement ne fait que reculer la liberté de la presse au Burundi.
C'est vraiment regrettable qu'un chef d'État puisse s'attaquer à un journaliste parce qu'il n'a fait que son travail, parce que le journaliste, il n'a fait que poser une question. Une question d'ailleurs qui est sur le lèvre de tout le monde, sur cette affaire des victimes de l'incendie de la prison de Gitega. Le chef de l'État, au lieu de répondre, il s'en prend à lui, il le menace, il le malmène, et le traite de tous les mots. C'est vraiment regrettable. C'est une atteinte à la liberté de la presse, une atteinte à la liberté d'expression. En somme, une atteinte à la Constitution qui reconnaît cette liberté de la presse. C'est vraiment très regrettable, surtout au moment où même... la liberté de la presse était mise en mal dans ce pays. Maintenant, cela aura effectivement des conséquences néfastes sur cette liberté, puisque le numéro 1 vient de donner le ton par rapport à comment traiter les journalistes. Et c'est quelque chose qui ternit l'image du pays.
Alexandre Niyungeko ajoute que contrairement au dire de certains dirigeants qui disent qu'il y a des gens qui ternissent l'image du Burundi, le président Ndayishimiye vient de prendre le devant en prononçant des propos qui sapent la liberté de la presse. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que le président Ndayishimiye s'en prenne aux journalistes. Très récemment, il avait accusé des journalistes burundais travaillant pour les médias internationaux qu'ils ternissent du jour au jour l'image de leur patrie.
Merci Jean-Marie Ndabashinze. On termine cette édition pour reparler d'innocent Barutwa Nayo, mort torturé par des agents du service national des renseignements à Kayanza et à Bujumbura depuis plus d'un mois, qui n'a toujours pas été inhumé. Son corps se trouve toujours dans la morgue de l'hôpital Prince Louis Gwagasore. Innocent Barutwa Nayo était membre du parti SNL en commune Matongo de la province Kayanza. Les proches de sa famille exigent la poursuite des auteurs de son assassinat et la vérité sur ce crime. Georges Nimenya.
La victime de cette torture est le nommé Innocent Barutwa Nayo, membre du parti CNL. Il avait été arrêté le 16 novembre 2021 sur la colline Kavumu de la commune Matongo en province Kayanza. Il était accusé d'avoir reçu sur son téléphone limité une somme d'argent qui provenait d'un certain Marabou, membre de sa famille qui vit à l'étranger. Ceux qui l'ont arrêté lui ont accusé de faire la logistique d'un groupe armé alors qu'il aidait son Marabou dans la démarche de ses projets. Les mêmes informations révèlent qu'il est mort sous les tortures de ceux qui voulaient désavouer de ces accusations par la torture. Les habitants de Matongo font savoir qu'il a été arrêté par un officier de police judiciaire prénommé Gilbert.
C'est l'officier de police Gilbert en complicité de certains Imbonerakure qui ont arrêté Innocent Barutwa Nayo. Il a été gardé d'abord dans un cachot à la commune et par après, le responsable des renseignements est venu le prendre et quelques jours plus tard, l'administrateur est venu nous dire d'aller prendre le corps sans vie à la clinique Prince Louis Gwagasore. Nous sommes dépassés par cette situation où un officier de police judiciaire arrête un homme et quelques jours après que l'on nous dit qu'il est décédé par torture.
Ils exigent la traduction à justice des tortionnaires et de savoir la vérité sur la mort inopinée du leader. Ils demandent au président de la République de s'impliquer dans la répression de son crime et d'exiger l'inhumation digne du regretté.
N'a pas été encore enterré par faute de moyens. Nous vivons comme des réfugiés alors que nous sommes chez nous. Même à l'époque d'Hitler, ils ont tué les Juifs, mais ceux qui ont survécu ont pu vivre une renaissance de leur race. Nous exigeons de savoir la vérité sur l'assassinat d'une autre innocent Balotkwanayo. Nous demandons au président de la République d'exiger des enquêtes sur l'assassinat d'une autre. Il ne s'accusait de rien.
Pacifique Nina Azoué, président du Forum pour la conscience et le développement Fokode Asig, demande la poursuite de Léonard Ngendakoumana, responsable du service national des renseignements dans la province Kayanza, accusé d'avoir torturé à mort Innocent Balotkwanayo, comme c'est le cas pour Gérard Ndayisenga, accusé d'avoir torturé à mort Fait Augustin Matata.
Il y a un autre cadavre à la clinique Prince Louis Gwagasore, d'un militant du CNR, qui a été également torturé par le service de renseignement en province de Kayanza. Mais pourquoi ne pas arrêter le responsable provincial du SNR à Kayanza, Léonard Ngendakoumana, qui a torturé une personne et dont la torture a causé la mort? Pourquoi celui-là n'est pas poursuivi en même temps que Gérard Ndayisenga?
Les informations qui parviennent de Matongo, faut savoir que les Imbonerakure de la localité ont érigé une barrière dans les proximités de la maison du président de l'Assemblée nationale, Gérard Ndabirabe, où sont malmenés des passants, surtout vers la soirée. À la rédaction de la radio Inza Bagatea Kawe, nous avons essayé de joindre par téléphone Innocent Alfred Mousseremo, responsable du département des renseignements intérieurs, et le général-major Ildefonse Habarurema, patron du service national des renseignements, pour éclairer l'opinion sur ce cas de plus en plus emblématique de torture, mais sans succès.
C'est par vous, Georges Nimenia, que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Alate Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.